Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Même si tout le monde ne vit pas une expérience de mort imminente, chacun peut se sentir concerné par son message. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité, un médecin spécialiste de ces manifestations. Les expériences de mort imminente pour tous, c'est le titre du livre du docteur Patrick Tellier qui est en direct depuis Lourdes. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes médecin, aujourd'hui retraité, et vous avez été pendant 12 ans le directeur du bureau des constatations médicales de Lourdes. Et ça fait quand même plus de 25 ans que vous travaillez sur les expériences de mort imminente qu'on appelle les EMI.
Oui.
Une grande expérience, et c'est votre troisième ouvrage sur ce sujet.
Le troisième en 10 ans, oui.
Le troisième en 10 ans, mais un ouvrage que nous allons voir qui est plus spirituel que les précédents et qui permet justement de parler à un plus grand nombre. Il faut quand même qu'on débute cette émission par préciser ce qu'on entend par expérience de mort imminente. Qu'est-ce que vous diriez, docteur Patrick Tellier, pour en avoir une juste compréhension?
Eh bien, normalement, une expérience de mort imminente, c'est une personne qui perd la vie donc clinique, sur le plan clinique, il y a un arrêt de la circulation et de la respiration, et qui passe dans un autre monde, un temps indéfini, ça peut être très court, ça peut être plus long, et qui revient à la vie. Il revient à la vie, et là, il raconte à ceux qui veulent bien l'écouter, et toujours avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de sensibilité, il raconte qu'il a vécu quelque chose d'extraordinaire, qu'il l'a transformé, et qu'à partir de là, pour lui, c'est une nouvelle naissance, et à partir de là, sa vie change complètement.
Ouais, il y a un avant et un après l'expérience de mort imminente. Ouais.
Totalement. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Ils ont été rattrapés par la vie, finalement. C'est pour ça que mon deuxième livre, mon premier livre, j'ai dit expérience de mort imminente, mais c'est une expérience de vie, de vie imminente qui apparaît à travers ces expériences.
Alors, on va le voir. Parfois, ces expériences de mort imminente donnent une vision positive, et puis d'autres fois, c'est une vision négative. Qu'est-ce que ces expérienceurs, comme vous les appelez, voient? Qu'est-ce qu'ils voient?
Alors, il y a plusieurs phases dans la vision. La première chose, c'est qu'ils sortent de leur corps. C'est quand même assez étonnant. C'est une expérience qui peut arriver d'ailleurs en dehors des EMI. Mais les voilà qu'ils quittent leur corps et qu'ils voient leur corps de haut. Bon, ça, c'est assez fréquent. Et puis, il y a un changement d'état de leur corps lui-même, puisque ils peuvent traverser les murs, s'éloigner dans l'espace, observer le monde sous tous les angles, percevoir une scène simultanément depuis plusieurs endroits. Et à partir de là, il leur arrive, alors une fois sur trois, pas toujours, de traverser, d'être pris à tirer dans un long tunnel. On en parle souvent, ça, mais oui, c'est pas obligatoire, mais ça arrive quand même une fois sur trois, qui débouche dans un univers inconnu, qui n'est plus terrestre. Et là encore, au bout de ce tunnel, dans deux tiers des cas, on peut dire, ils aperçoivent une lumière blanche, éclatante, dorée, disent-ils, aussi brillante qu'un million de soleils, mais pas aveuglante.
Ouais.
Une lumière très attirante. Très attirante, et un pas de plus, ils rencontrent un être de lumière, disent-ils, donc une personne rayonnant de lumière, mais surtout dégageant un amour ineffable, on peut dire, qui va les marquer à vie. Ils se sont sentis aimés comme jamais auparavant. Donc c'est une rencontre inoubliable qui les transforme et qu'on ne pourra pas leur retirer.
Mmh. Comment ça oriente leur vie après ?
Ben, ça les oriente vers plus de spiritualité, plus d'ouverture aux autres. Moi, je connais plusieurs qui faisaient des métiers qui étaient rentables, mais qui se sont dit « non, je ne peux plus faire ça », et qui se sont mis à faire d'autres études pour être au service de leur prochain, par exemple. Et moi, je compare, puisque j'étais à Lourdes m'occuper des miraculés, je compare aux miraculés qui eux-mêmes font une expérience intérieure très forte. Le miracle, ce n'est pas seulement le miracle physique, c'est un miracle qui, le miracle touche la personne tout entière. Et leur vie après est aussi réorientée vers les autres et vers le spirituel.
Mmh.
Et c'est ça qui est quand même assez étonnant.
Justement, docteur Patrick-Ali, je voulais vous demander ces différences, parce qu'effectivement, dans votre livre, vous faites un parallèle entre les expériences de mort imminente et les miracles. Mais il y a quand même des choses qui se distinguent.
Complètement. Il y a des choses qui se distinguent. Parce que les EMI, certains disent que c'est un miracle. Non, ce n'est pas du tout miraculeux. Ce sont des choses qui arrivent sans qu'on s'y attende, c'est certain. Mm-hmm. Et comme pour les miracles, pourquoi est-ce que ça arrive à certaines personnes et pas à d'autres? En fait, on considère qu'il y a entre 12 et 18% des gens qui perdent la vie, qui font une expérience de mort imminente. Donc tout le monde ne la fait pas.
Oui.
On ne sait pas pourquoi certains la font, d'autres pas.
Oui, parce qu'après, ce n'est pas une question d'âge, de religion, de...
Du tout. On a des personnes de tous les âges, de tous, des enfants, des vieillards, de toutes les religions. Moi, j'ai connu des gens qui n'étaient pas chrétiens, qui ont fait... Et c'est pour ça que c'est intéressant, d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le milieu chrétien que ça se voit, c'est pour tous. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils en retirent tous quelque chose.
Oui.
Et c'est bien pourquoi moi je reçois, étant donné que j'ai écrit déjà deux livres, ce sont des gens qui n'osent pas en parler, mais comme ils voient que je suis ouvert à ça, tout en étant quand même médecin, ils osent m'interpeller, m'écrire, m'envoyer des mails, me téléphoner.
Donc votre travail continue en tout cas, même si vous n'êtes plus au bureau des constatations de Lourdes.
Ben oui, parce que j'ai quand même une aura, je dirais, qui fait qu'on peut m'aborder. Bon, j'étais à un mariage samedi à Castelnaudary, mais j'avais plusieurs personnes qui ont commencé à me parler de leur expérience.
Oui,
c'est quand même assez étonnant.
Oui, oui. Sur les différences avec le miracle, donc vous disiez que ce n'était pas quelque chose qui était demandé, quelque chose qui n'était pas...
Alors,
on ne prie pas pour avoir une expérience de mort imminente, par exemple. Voilà.
Pas du tout, pas du tout. Donc, le miracle, c'est Dieu qui choisit, en fait, finalement, qui il veut guérir. C'est toujours une question qui se pose. Pourquoi telle personne guérit? Pourquoi pas telle autre?
Oui. Hein?
Et certaines personnes qui ont guéri vont mourir quelque temps après. C'est quand même encore plus étonnant. Donc là, c'est une question dont on n'a pas de réponse. Alors que dans les EMI, ça arrive, je dirais, spontanément, naturellement, quoique naturellement, c'est aussi en rapport avec le surnaturel. Hein, j'insiste sur ce point dans mon livre. C'est pas seulement naturel. Mais ça n'est pas, à mon avis, ça n'est pas une décision divine, je dirais, comme dans le miracle. Néanmoins, les conséquences sont semblables, et en particulier les fruits spirituels qui en découlent.
Oui, et puis quand vous parlez de cette lumière et de cette vision d'une personne aimante, là on est vraiment dans une dimension spirituelle.
Ah oui, alors là, c'est extraordinaire. Il faut entendre les expérienceurs qui disent « j'ai ressenti, par exemple, ce que pouvait être un amour au-delà de tout ce qui peut exister », ou bien un bonheur que personne ne peut imaginer, un endroit où le mal n'existe pas. Je n'ai jamais ressenti une pareille joie. J'étais bien, j'aurais voulu rester là, en ce lieu où les larmes sont effacées. Vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. Mm. Je ne faisais qu'un avec la pure lumière et l'amour. J'étais un avec Dieu et en même temps un avec tout. Moi, je suis toujours très ému, je dirais, quand j'ai le témoignage de quelqu'un qui est lui-même très ému pour le raconter et qui me dit « ça m'est arrivé, je sais pas, il y a 10 ans ou 25 ans, mais j'y pense tous les jours. » Parce que ça a marqué ma vie profondément et définitivement.
Et ce qui est étonnant dans votre livre, c'est que vous dites que même les prématurés peuvent faire des expériences de mort imminente.
Alors, oui, c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire, en effet, c'est que j'ai eu une dame qui m'a raconté que... elle a écrit un livre, d'ailleurs, sur le sujet, en changeant de nom, mais qu'elle avait eu une vie très difficile, très mal acceptée par sa mère. Ça l'a amenée à la drogue. Et elle m'a dit, mais malgré tout... J'ai toujours cru dans le Seigneur, j'ai toujours cru qu'il m'aimait. Et en lisant votre livre, je me suis dit, mais après tout, j'ai appris par mes parents que j'étais morte à la naissance, prématurée, et qu'on m'a réanimée. Et je suis persuadé, alors c'est elle qui me l'a dit, moi je ne faisais que reprendre ce qu'elle me dit, je suis persuadé que j'ai dû faire une expérience de mort imminente à ce moment-là, que j'ai rencontré le Seigneur et que je suis toujours avec lui et qu'il est avec moi. Et que c'est grâce à lui que j'ai pu quand même m'en sortir dans cette vie difficile. Alors ça m'a quand même impressionné, et d'autant que peu de temps après, revenant ici à Lourdes, c'était au moment où je travaillais à Lourdes, une autre personne me raconte exactement la même chose, une autre femme. Donc je me suis dit, ben oui, sûrement que ces expériences peuvent arriver même avant, au moment de la naissance en tout cas, hein, dès la naissance. Et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas.
Alors on a parlé de ces expériences positives, hein, qui sont voilà, une vision de la lumière, une vision d'une personne aimante, mais il y a aussi des expérienceurs qui vivent une expérience de mort imminente négative. Et alors c'est pour eux une forme d'avertissement.
Exactement. Moi, je dis que c'est un avertissement. Alors, c'est beaucoup plus rare quand même. Bon, il est sûr que ces personnes-là en parlent encore plus difficilement.
Ben oui, c'est ça.
Ça, c'est certain. Ben, enfin, j'en ai eu quelques-unes. Et tous parlent d'enfer, hein, sans savoir ce que c'est exactement. Mais ils voient un endroit de désespérance. C'est horrible. Et ils ont le sentiment d'un châtiment mérité. Bon, dont ils reviennent, grâce à Dieu. Donc, ça ne doit pas être l'enfer, c'est une partie de la réalité de l'autre côté qu'on a tendance à oublier, mais qui existe là où il n'y a plus de cette dimension d'amour qu'il y a dans les expériences de mort imminente positives. Mais on ne peut pas dire que ce soit négatif, parce que quand ils reviennent, ils vont changer de vie aussi.
Oui, c'est vrai, c'est un électrochoc, oui. Finalement.
Ah oui, absolument. Donc, j'ai connu des gens qui s'étaient suicidés, par exemple. Le suicide a raté, mais ils ont vécu ça et ça ne leur viendrait plus à l'idée de recommencer le même geste.
Est-ce qu'ils voient leur vie défiler ? Est-ce qu'ils ont une vision très précise de la manière dont ils mènent leur vie et qui les fait réaliser qu'en fait, ils ne sont pas dans le bon chemin ?
Ah oui, tout à fait. Oui, ouais, il y a vraiment une revue de toute leur vie qui leur fait prendre conscience qu'ils ont eu tort de suivre cela. Et c'est quand même assez étonnant, ça. Alors, dans les expériences négatives, ils ne rencontrent pas d'êtres de lumière, mais ils ont quand même une revue, le film de leur existence passée. Et ça les remet en question complètement.
Et d'ailleurs, vous expliquez dans votre livre et ce pourquoi ces expériences de mort imminente peuvent nous parler à tous, même si on ne les a pas vécues. Oui. C'est que, par exemple, dans ce cas d'une expérience, on va dire négative, même si voilà, j'ai bien compris que ce n'était pas forcément négatif sur la finalité, le fait que, voilà, que ces personnes revoient leur vie, ça fait penser au jugement particulier et évidemment au purgatoire, ce besoin de purification.
Ah oui, oui, moi je pense, en effet. Il y a la question qu'il aurait posée, mais qu'as-tu fait de ta vie, quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Et la personne comprend elle-même tout le bien et tout le mal qu'elle a pu faire. Et veulent, en revenant, revoir leurs priorités.
Et ça, cette question, qu'as-tu fait de ta vie ? Est-ce que tu as aimé ? À votre avis, docteur Patrick Tellier, c'est une question qui nous sera posée à notre mort ?
Eh bien oui, je crois que ça sera la question, la grosse question qui nous sera posée. On ne peut pas y penser, je pense. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que notre vie est bien courte, hein, 70 ans, 80 ans pour les plus vigoureux, dit le psaume 89. Et après. Donc, il y a une vie qui nous attend. Les expériences de mort imminente, pour moi, sont un signe très fort de cette vie qui, certes, n'est pas visible, mais qui existe et qui nous est révélée par l'Église. Et donc, cette vie après notre vie terrestre dépendra complètement de la vie qu'on a menée ici-bas. Ce sera une prolongation. ça ne sera pas une vie complètement différente.
Il y aura un lien, bien sûr.
On ira dans le même sens de ce qu'on a vécu ici-bas. Et donc, qu'est-ce qui nous importe? Moi, je dirais, si on n'a pas ce sentiment de cette vie éternelle qui nous attend, parce qu'elle est éternelle, cette vie qui sera la suite de notre vie ici-bas, on n'est pas dans le réel. On n'est pas dans le réel. Et il faut être convaincu que tous les moments, tous les instants de notre existence terrestre ont un impact sur notre existence future.
Oui, tout est lié. Votre ouvrage s'attache notamment à montrer que les expériences de mort imminente concordent avec l'enseignement de l'Église. On parlait à l'instant du jugement particulier, de cette période, on va dire, phase de purification qu'est le purgatoire, et puis évidemment de la vie éternelle. Mais vous parlez aussi d'un des aspects de cet enseignement de l'Église et qui est mis en avant par ces expériences de mort imminente, c'est l'unité de la personne humaine. Corps, cœur et esprit.
Oui.
Que révèlent les EMI à ce sujet?
Elles révèlent que le corps, que l'âme est prioritaire dans notre structure humaine. C'est l'âme qui soutient le corps. Alors, on imagine que sur Terre, c'est l'inverse, alors que je ne crois pas. Pardon. L'âme influe énormément sur notre personnalité, et c'est cette âme qui est immatérielle et qui prolongera notre existence après la mort, mais qui aura toujours englobé en elle notre histoire corporelle, notre histoire sociale, notre histoire culturelle, que sais-je. Tout ce qu'on aura vécu sera intégré dans cette âme immortelle, et ça l'est au fur et à mesure qu'on le vit, pour l'éternité, donc et pour la fin des temps où nous retrouverons notre corps, puisque c'est ce que l'Église enseigne.
Oui.
Et donc l'importance de savoir que nous sommes un corps et âme à chaque instant de notre existence terrestre et aussi future, puisque notre âme portera encore notre corps pour la fin des temps, pour on redeviendra chair, hein, à ce moment-là, c'est l'Église qui... Et donc, il ne peut pas y avoir une coupure à aucun moment. Ça reste une unité ontologique entre le corps et l'âme. Alors, bien entendu, à la mort, une partie de notre corps matériel va disparaître, mais l'essentiel de tout ce que nous aurons vécu restera.
Et oui, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, puisque vous reprenez cette citation du catéchisme de l'Église catholique: l'âme s'unira à nouveau au corps lors de la résurrection finale. Je vous propose qu'on garde ce point pour notre deuxième partie, puis évidemment on va continuer cet échange à propos des expériences de mort imminente. Nous retrouvons donc dans quelques instants et nous écoutons le Requiem de Mozart, un passage évidemment interprété par le chœur de chambre Les Éléments et l'orchestre de chambre de Toulouse.
Église, Isabelle Duché.
Cette émission Vivante Église est consacrée aux expériences de mort imminente. Notre invité est le docteur Patrick Tellier, auteur de l'ouvrage Les expériences de mort imminente pour tous aux éditions Artege. Vous nous expliquiez juste avant cette pause musicale, docteur Patrick Tellier, ce qu'est une expérience de mort imminente. Vous nous disiez que c'était une expérience dont on ne ressortait pas indemne, mais il y avait un avant et un après avec souvent un changement de vie, et nous nous posions la question de cette unité du corps et de l'âme, et avec cette citation du catéchisme de l'Église catholique, l'âme s'unira à nouveau au corps lors de la résurrection finale. Et c'est vrai qu'au cours des EMI, ceux qui la vivent témoignent de la rencontre de personnes défuntes avec leur corps. Comment peut-on comprendre ces deux éléments?
Ben oui, c'est assez étonnant.
Oui.
Les expérienceurs, comme on dit donc aujourd'hui, oui, reconnaissent très bien les personnes défuntes qu'elles peuvent rencontrer au cours de leur sortie du corps. Alors, soit ce sont des personnes qu'elles ont connues auparavant. Par exemple,
oui, ça peut être une grand-mère.
Voilà, une grand-mère, oui. Grand-père, et qui sont transfiguré quand même. Hein. Moi, je me souviens de la première personne qui m'en a parlé, une femme d'une quarantaine d'années, qui disait ma grand-mère que j'avais connue très âgée. Quand je l'ai vue, j'étais sûr que c'était elle, mais elle avait rajeuni. Elle n'était plus de vieille femme comme je l'avais connue, et pourtant c'était bien elle. Bon, c'est quand même assez étonnant. Ou alors, il y a aussi des gens qui rencontrent des personnes qu'elles n'ont pas connues et qui se posent la question au retour, mais qui ça pouvait bien être. Et par exemple, il y a le docteur Eben Alexander, qui est assez connu, qui a écrit un livre aussi sur l'expérience de mort imminente, qui était un neurochirurgien qui ne voulait pas croire à ces histoires-là, qui pourtant ça lui est arrivé. Et il a rencontré une jeune femme, se demandant qui ça pouvait être, et en cherchant, après, il s'est rendu compte que c'était sa sœur biologique, dont il ne connaissait pas l'existence et qui était décédée donc avant lui. Ou bien on a un enfant, qui est connu aussi, le petit Dolto, qui raconte qu'il a rencontré une petite fille et que c'était sa petite sœur qui était décédée avant lui à la naissance. Donc, il y a une reconnaissance très claire des
personnes, en fait, hein, même si le corps n'a pas le même aspect.
Alors, le corps n'a pas forcément le même aspect, mais il y a une connaissance profonde qui dépasse l'aspect, je pense. Alors, ce qui voudrait dire que l'âme porte bien un corps pendant tout le temps avant la résurrection des corps. Et que, donc, ces corps ne sont pas abandonnés, j'irais, dans l'atmosphère. Mmh. Les corps sont toujours présents d'une façon étonnante, de façon peut-être mystérieuse, je dirais, mais certaine dans l'au-delà. Donc et on peut dire que l'Église a toujours insisté sur l'importance du corps.
Oui, avec tous les rites, notamment des funérailles, par exemple.
Exactement, et même les reliques. Pourquoi garde-t-on des reliques? C'est vrai que le corps a une importance fondamentale. Et on n'en fait pas n'importe quoi.
Et vous citez le père Jean-Marc Bott, je ne sais pas si on dit Bott ou Beau, qui dit « L'âme séparée du corps à la mort a en quelque sorte la mémoire du corps ».
Je crois que c'est ça la vérité.
Alors j'aimerais que nous parlions maintenant de ce que vous écrivez. Vous dites que beaucoup d'indicateurs montrent que nous sommes en état de mort spirituelle imminente. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce terme de mort spirituelle imminente, docteur Patrick Tellier.
Oui, eh bien en effet, nous sommes dans les derniers temps depuis l'ascension, donc on est en plein dans les derniers temps. Ceux qui réfléchissent à la fin des temps, ce qui est autre chose, donc, disent qu'il y aura donc cette venue glorieuse du Christ, mais ça passera par un temps difficile, exactement comme la mort du Christ a été nécessaire pour sauver le monde. Et donc notre monde passera obligatoirement par des temps compliqués, difficiles, avec en particulier ce qui est expliqué dans l'Apocalypse, c'est la présence de l'Antéchrist ou de l'Antichrist qui aura une importance certaine. Donc, ce sera un temps qui nous amènera secondairement, comme la résurrection du Christ, à la venue glorieuse, à sa venue glorieuse où il reviendra sur terre. Et donc, moi, je pense que la multiplication des expériences de mort imminente aujourd'hui, ou aussi des personnes qui, sans mourir, sans perdre la vie, font cette expérience. Il y en a de plus en plus, j'en ai de nombreux exemples. Ça leur arrive comme ça, brutalement, sans prévenir. Ils partent de l'autre côté, ils font l'expérience de Dieu et ils reviennent. Et ça peut être instantané. J'ai une dame qui m'a écrit tout un cahier pour me raconter son histoire comme ça. Elle me dit, il était 15 heures, j'avais mes quatre enfants autour de moi, j'ai perdu connaissance, semble-t-il, et puis je suis parti de l'autre côté, j'ai fait l'expérience de Dieu, je suis revenu à moi, et il était encore 15 heures. Donc ça a été instantané.
Très fugace, oui.
Et ça a changé toute mon existence, ça a changé toute ma vie, je vois les choses tout à fait autrement. Voilà. Donc, alors, moi, ça m'a interrogé, bien sûr. Et je me suis dit, après tout, est-ce que ce ne serait pas des signes pour nous, aujourd'hui, qu'il serait temps de nous tourner vers le ciel, quoi.
De nous convertir.
Et de nous convertir. D'autant que la Vierge, qui est apparue quand même de nombreuses fois sur Terre ces derniers siècles, enfin en tout cas 19e, 20e siècle, et encore maintenant, nous annonce ces temps à venir et nous dit de nous y préparer.
Oui, donc finalement, ces expériences de mort imminente sont un signe de plus pour nous alerter et nous préparer. Vous dites que finalement, ça nous invite, ça invite chacun à une conversion. Et pour cette conversion, vous appelez notamment à sanctifier le temps. Pourquoi ?
Ah, oui, moi j'aime bien. Je crois que c'est fondamental parce que... Justement, nous sommes dans le temps actuellement. Nous sommes dans le temps et nous ne serons plus dans le temps après. Nous serons en dehors du temps et en dehors de l'espace. Et donc là, le temps nous est donné pour sanctifier notre vie. Mais justement, le plus simple, c'est peut-être de sanctifier ce temps. Donc jour après jour, heure après heure, année après année. Et c'est là où l'Église nous apporte énormément en nous proposant tous les moyens pour sanctifier le temps, que ce soit hebdomadaire avec le dimanche, le jour du Seigneur qui doit être sanctifié, mais aussi avec les prières du temps présent, matin et soir, les laudes, les vêpres, les complies, qu'on peut, nous, en tant que laïcs, très bien utiliser, je dirais, pour notre profit et qui nous met dans un état d'esprit d'action de grâce pour tout ce que nous pouvons recevoir au fil du temps, au lieu d'être dispersés ailleurs tout le temps, de revenir à l'essentiel.
Ça permet d'être en présence de Dieu finalement.
Cette présence de Dieu qui nous mène à l'au-delà, quoi, parce que là on sera entièrement en présence de Dieu. Donc il faut commencer aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense que la sanctification du temps et de l'instant présent même lui-même, hein, être toujours dans l'action de grâce, dans la gratitude, change notre cœur et nous permet de nous préparer à la vie future.
Et vous avez aussi cette belle expression de liturgie du prochain.
Oui, ça vient pas de moi d'ailleurs. Ça vient pas de moi. Je ne sais plus où j'avais entendu ça et j'ai repris parce que j'avais trouvé ça aussi merveilleux. Cette liturgie, parce que moi, la liturgie, je trouve que c'est très important. C'est quelque chose qui nous est donné. Et il suffit de puiser et de la vivre. Et cette liturgie nous ouvre au prochain. D'abord, on la vit avec d'autres en général, on n'est pas seul. La vie communautaire, pour moi, est très importante. Et je peux dire que depuis que j'ai fait moi-même une expérience, non pas de mort imminente, mais une expérience de l'amour de Dieu pour moi, qui a été très forte, c'était à la Toussaint 74. Vous savez, je m'en souviens aussi comme si c'était hier.
Oui, c'est un élément marquant.
Eh bien, cette expérience a contribué à faire que j'ai eu cet appel à vivre avec d'autres la vie chrétienne. Et vivre seul sa vie chrétienne, c'est pas conseillé. Enfin, c'est pas,
un chrétien
c'est pas...
seul est un chrétien en danger, dit-on.
Exactement.
Parlions de la liturgie du prochain, et vous expliquez que cette vie en communauté, c'était aussi un moyen de sanctifier le temps.
Oui, tout à fait, parce que c'est ensemble que l'on prie en église et en communauté. Et pour moi, je pense que, oui, comme vous le disiez, un chrétien isolé est un chrétien en danger. Donc la liturgie du prochain, c'est ça. Et c'est aussi, la liturgie nous pousse à nous donner aux autres et pas se replier sur soi-même.
Oui, bien sûr. Oui. Dans ces expériences de mort imminente dont beaucoup de personnes sont témoins, certains le racontent et d'autres n'osent pas, ça pourrait être, c'est ce que vous écrivez, Dr Patrick Tellier, une source d'espérance unique pour nous-mêmes et pour notre société. Comment se laisser gagner par cette espérance ?
Eh bien justement, je crois que l'espérance principale, avec un grand E, c'est cette espérance du ciel. Tout le reste, c'est très limité.
Et ça
Or,
passera.
Ça passera, oui. Tout passe. Hein. Donc, la seule espérance qui tienne, cette espérance du ciel, je pense que c'est... ces signes qui nous sont donnés aujourd'hui, parce que ce sont des signes. Alors des signes, on en fait toujours ce qu'on veut, hein. On est libre de les prendre ou de ne pas les prendre. Mais les signes nous sont donnés gratuitement. Et ces signes sont là pour nous tourner vers le ciel. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Et c'est bien pourquoi je rajoute une couche, je dirais, on écrivra un nouveau livre. Mais c'est tellement fort, je peux vous dire que moi, toutes les personnes qui m'ont abordé pour me parler de leur expérience, je les ai dans mon cœur, je ne peux pas les oublier, c'est tellement magnifique et unique, c'est sûr que ça m'a tellement touché.
Oui.
Ah oui, ça bouleverse, oui.
Oui.
La multiplication de ces expériences, c'est pas pour rien, c'est pas possible autrement. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui.
Ouais, il faut se laisser interpeller. Et puis, puisque nous sommes dans ce 350e anniversaire des apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, vous expliquez aussi dans votre ouvrage, Dr Patrick Tellier, que être attentif, finalement, aux fins dernières et puis au ciel, c'est aussi développer cette dévotion au Sacré-Cœur.
Oui, et j'ai d'ailleurs été content que le pape Léon XIV en parle ces derniers jours, en disant que il faut s'ancrer dans le cœur de Jésus. Et je crois que le cœur de Jésus et de Marie, c'est ce qui nous sauvera de tout ce qui peut se passer aujourd'hui, parce qu'on est quand même dans des temps difficiles qui remettent en cause la vraie vie qui est la vie chrétienne, parce que on est dans un temps d'apostasie quand on voit qu'on veut légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Moi, ça me désole profondément, surtout qui suis médecin.
Mais bien sûr.
Et je me mets à la place des médecins qui sont encore en activité. C'est épouvantable. Et donc, en ce temps qui sont difficiles pour nous, chrétiens, qui croyons à la vie éternelle, et bien, il faut s'accrocher à des points sûrs et en particulier donc au cœur. Le cœur, c'est quand même le centre de la personne. Le cœur représente toujours l'amour. Et donc, le cœur de Jésus qui s'est donné pour nous, qui a été percé pour nous, est très important. Et je parle en particulier dans mon livre de Sainte Myriam de Jésus crucifié.
Oui, en avons fait une émission la semaine dernière.
Ah, ben oui, ben, c'est, ben, moi qui suis de Pau, c'est.
Oui, elle a été au Carmel de Pau deux fois.
Voilà, elle a été deux fois trois ans au Carmel de Pau, où elle a été transverbérée le 14 mai 1858. Et on a fêté ça le 14 mai dernier. C'est fondamental parce que c'est un signe qui nous a donné pour nous tous de nous laisser toucher, atteindre. Par l'amour de Dieu au plus profond de nous-mêmes, donc dans notre propre cœur, même si nous ne vivrons pas cette transverbération. Mais quelqu'un comme Thérèse de l'Enfant Jésus n'a pas eu de transverbération, mais elle a vécu cette touche du Seigneur dans son cœur.
Oui, donc on comprend bien que ces expériences de mort imminente que certains vivent sont des signes pour tout chrétien et permettent de s'ancrer dans le temps présent grâce à la liturgie, à la liturgie du prochain aussi, comme vous l'écrivez, et puis à développer cette dévotion au Sacré-Cœur en cette année du 350e anniversaire.
Absolument.
Des apparitions. Merci beaucoup, docteur Patrick Tellier. On a peut-être encore une petite minute pour une petite phrase de conclusion, si vous le souhaitez.
Moi, je crois que la vie est toujours là. La vie est plus forte que la mort. Elle nous rattrape toujours, heureusement. Il tient qu'à nous de ne pas se refermer, d'être toujours ouvert à la nouveauté, d'être toujours ouvert à ce que le Seigneur veut nous donner. Et je suis persuadé qu'il veut nous donner beaucoup et encore plus en ces temps-ci.
Merci beaucoup, docteur Patrick Tellier. Je rappelle le titre de votre livre, « Les expériences de mort imminente pour tous » aux éditions Arthège. Et je remercie aussi l'équipe de Radio Présence Lourdes d'avoir permis la réalisation de cette émission en duplex. Merci et bonne journée.
Et merci à vous.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.